rédaction.
L'invité de la rédaction aujourd'hui, c'est Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre des Droits des Femmes, ancienne ministre de l'Éducation et directrice France de l'ONG One. Bonjour.
Bonjour.
Vous participez aujourd'hui au colloque organisé par la ville de Strasbourg par rapport aux violences faites aux femmes. Comment est-ce que ça s'est passé cette première partie de la journée ?
Bah d'abord, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être présente à ce colloque, dont c'est la 11e édition. Moi, je trouve ça fabuleux que depuis 11 ans, chaque année, on ait un moment comme ça qui mette en lumière le combat contre les violences faites aux femmes. Et avec un nombre d'acteurs présents qui est invraisemblable, puisqu'on a quand même une salle de plus d'un millier de personnes qui se mobilisent toute la journée pour réfléchir ensemble sur ces sujets. Je suis ravie d'être là, pas simplement avec ma casquette d'ancienne ministre en charge des droits des femmes, c'est vrai que c'est un portefeuille qui m'a vraiment beaucoup tenu à cœur, mais aussi pour ce que j'ai fait depuis, ce que je continue à faire, c'est-à-dire que dans toutes mes fonctions, que ce soit dans le secteur privé, dans une entreprise qui faisait des enquêtes d'opinion, que ce soit aujourd'hui à la tête d'une ONG qui lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde. Dans toutes ces fonctions, à chaque fois, j'ai regardé la question des violences faites aux femmes parce que je trouve que c'est le scandale absolu de notre temps auquel il faut qu'on s'attaque de toutes les façons possibles. Et donc, j'étais vraiment très, très heureuse d'être la grand témoin de cet événement.
Alors justement, les violences faites aux femmes, elles touchent un petit peu tout le monde. C'est universel, malheureusement, c'est dans tous les pays. Comment y remédier, selon vous, pour être impactant, justement, pour créer un changement, pour stopper justement ce genre d'actes ?
Ben, la façon d'y remédier, d'abord, c'est de ne pas les tolérer. En fait, c'est ça le sujet. C'était d'ailleurs le thème de mon introduction. C'est ce que j'appelle la tolérance sociale à l'égard des violences intrafamiliales, conjugales, sexuelles. Dans le sens où, finalement, vous auriez exactement le même type d'acte qui se déroulerait dans la rue, dans l'espace public, à l'égard d'un inconnu. Une gifle, un coup de poing, des coups de pied, parce que c'est à ça que ça ressemble, hein, la violence intrafamiliale, voire malheureusement... un couteau, voire même un meurtre, vous auriez exactement la même chose dans l'espace public avec des inconnus. Tout le monde trouverait ça horrible, se précipiterait pour arrêter la main de l'agresseur. Voilà, et en fait, en réalité, quand ça se passe dans le domaine privé, dans le foyer, dans la chambre à coucher, on a l'impression que c'est de l'intimité, que du coup, on n'a pas à s'en mêler et on est un peu gêné aux entournures. Non, il n'y a pas à être gêné, la violence, c'est la violence. Il faut la dénoncer, il faut l'arrêter, il faut arrêter la main de l'agresseur à chaque fois que c'est possible, tout de suite, sans reporter au lendemain, sans trouver normal qu'il présente des excuses ou que sais-je. Donc, en fait, vraiment, intimité ne doit pas plus rimé avec impunité. Et pour contrer cette tolérance sociale qu'on a encore, y compris dans des pays comme les nôtres, eh bien, évidemment, il faut que la parole se libère, qu'on mette des mots sur les choses, qu'on éclaire en fait ce qui se passe dans ces chambres à coucher, qu'on prenne conscience de la gravité de ces phénomènes, de la douleur, de la trouille, des effets sur les enfants. Et tout ça a été documenté, illustré par la recherche. Il y a beaucoup de chercheuses, notamment, qui ont travaillé sur les effets sur les cerveaux des enfants d'être témoins de violences intrafamiliales, par exemple. Et on a l'impression que ça n'est pas relayé médiatiquement, pas forcément approprié par les pouvoirs publics. Donc, c'est ce lien entre les travaux de la recherche, l'expertise et l'expérience des acteurs associatifs qui accompagnent des femmes victimes de violences, la parole des victimes elles-mêmes, et ce qu'on décide au niveau des pouvoirs publics et ce qu'on raconte dans les médias qui doit être fait davantage pour mettre fin, un jour, on l'espère, à ces violences conjugales ou en tout cas au fait qu'elles perdurent dans le temps.
Et peut-être aussi se mettre du côté des victimes, justement, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, encore dans certaines commissariats, nous avons des victimes qui veulent simplement porter plainte, mais qui sont peut-être face à des agents de police, des fois, qui eux-mêmes peuvent être une source de violence, même de façon verbale par exemple, minimiser un peu les dégâts par-ci, responsabiliser la victime ou en quelque sorte lui mettre un peu un fardeau de responsabilité unique, etc. D'après vous, il y a un grand travail de fond aujourd'hui dans ce genre de métier qui sont censés protéger les victimes et non pas les rendre vulnérables encore plus ?
Bien sûr. En fait, il faut partir d'un principe simple. C'est que ce dont nous parlons, les violences faites aux femmes et les effets qu'elles ont sur les victimes, ça n'est pas une évidence. En fait, quand on n'en a pas soi-même vécu, on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est pour ça que l'expérience de celles et ceux qui vivent ça est tellement importante à écouter et à relayer, parce qu'en fait, c'est eux qui nous disent, elles et eux, qui nous disent en quoi ça consiste. En quoi ça consiste d'avoir été un enfant qui a grandi des années durant dans une famille où il y avait de la violence. Comment vous pouvez l'imaginer à sa place si vous n'y avez pas été ? Donc, cette parole, elle est précieuse et cette parole, elle doit ensuite nourrir quoi ? Des plans de formation pour les professionnels. C'est-à-dire que sur la base de cette parole, sur donc la meilleure compréhension, par exemple, des phénomènes d'emprise, de la difficulté à aller déposer plainte et du fait qu'on se... qu'on finisse par décider de ne plus le faire, puis de revenir, puis d'accepter des excuses, etc. Tous ces phénomènes-là, cette hésitation permanente des victimes, cette perte de confiance en elles-mêmes, tous ces phénomènes-là, il faut les entendre pour que ensuite les professionnels qui sont amenés à recueillir la parole des victimes comprennent à quoi ils ont affaire et se disent pas juste « Oh, elle sait pas ce qu'elle veut, de toute façon, elle a changé d'avis 36 fois. » Si vous comprenez pas ce qu'est le phénomène d'emprise, vous pouvez pas comprendre tout ça. Donc, c'est pour ça que quand j'étais ministre des droits des femmes, notamment, j'avais lancé un grand plan de formation de tous les professionnels concernés, c'est-à-dire aussi bien les policiers, vous les avez évoqués, les gendarmes, mais aussi les magistrats, les enseignants, les médecins, par exemple les médecins généralistes, avaient pas forcément toujours en tête quand ils accueillent une femme dont visiblement il y a quelque chose qui va pas bien, des maux de ventre réguliers qu'on sait pas expliquer, etc., de lui demander comment ça se passe dans son foyer, est-ce qu'il y a des problèmes de violence. Et il faut que cette question soit posée, parce qu'on peut pas juste dire mais libérez votre parole, vous les victimes. Il faut que la société soit dans des dispositions pour accueillir cette parole, pour la provoquer, cette parole. Et donc c'est ça la formation des professionnels. Donc il faut absolument poursuivre cet effort de formation que j'avais initié. J'espère que ça l'est. Il faudra aller encore plus loin parce qu'il faut que ce soit massif. Parce que plus nombreux seront les personnes, les professionnels qualifiés pour entendre la parole, et mieux la parole se libérera, et mieux on apportera des réponses et on arrêtera la main de l'agresseur à temps. Et il faut l'arrêter le plus vite possible.
Alors justement, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup pour cette interview.
Merci à vous, c'était un plaisir et bravo à Strasbourg pour ce bel événement.
Merci beaucoup.
À l'instar du colloque de lutte contre les violences faites aux femmes, il y a eu aussi l'Agora associatif où plusieurs associations étaient présentes. Nous les avons rencontrées.
Je m'appelle Anne-Laure Barbet, je suis formatrice au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles. Et donc on fait partie de l'Agora associatif. Donc le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, c'est une association d'accès au droit. Donc on est une vingtaine de salariés, notamment à Strasbourg. Et il y a principalement donc des juristes qui vont faire des permanences juridiques, surtout en droit de la famille, mais pour n'importe quelle question juridique, donc droit du travail, droit des étrangers. Les permanences pendant les confinements ont été maintenues. Et aussi on a mis en place des permanences téléphoniques pour les personnes qui pouvaient plus se déplacer en physique. Au CIDEF, il y a aussi des conseillères insertion emploi, donc qui accompagnent les personnes qui veulent changer de profession, qui veulent reprendre une activité. Et on a aussi des psychologues qui font des permanences pour les femmes victimes de violences, pour les enfants exposés aux violences et les enfants dont l'un ou les deux parents sont décédés. Il y a aussi des médiatrices familiales et des assistantes de travail social. Et moi, je suis formatrice. Donc le CIDEF organise de nombreuses formations pour former les professionnels, donc professionnels de santé, professionnels de force de l'ordre, travailleurs sociaux sur la thématique des violences, la détection des violences et un meilleur accueil et une meilleure orientation des victimes de violences sexistes et sexuelles.
Quelle est votre impression sur la première partie de la journée du colloque d'aujourd'hui ?
Première matinée très intéressante. Ce qui était intéressant, c'est la pluridisciplinarité des intervenants et des intervenantes. C'était particulièrement intéressant l'intervention de Dominique Joseph sur le rapport des crises sanitaires et inégalités de genre, avec de nombreux chiffres et l'exposition de la synthèse du rapport qui a été rendu en mars 2021.
Enfin, les chiffres qui ont été avancés, vous les avez vécus vous-même lors de la crise sanitaire ?
Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de l'augmentation des violences, c'est pour ça qu'on a dû mettre en place les permanences téléphoniques. C'est parce que même si on a maintenu la plupart des permanences physiques, on a quand même observé...
Si demain, il y a une femme qui peut avoir des soucis, etc., elle peut vous contacter sur quelle plateforme ?
Elle peut nous appeler.
Sur quel numéro ?
03 88 82 98 97. Et il y a des permanences dans tout le département, donc pas que à Strasbourg, il y en a aussi à Célestat, Haguenau, Aubernay, Bichevillers. Et sinon, si elle ne peut pas se déplacer, une juriste peut la rappeler pour lui donner des renseignements juridiques.
Je m'appelle Marine Dereau, je suis psychologue à l'association SOS Aide aux Habitants, Aide aux Victimes, une association qui permet en toute confidentialité et gratuitement un accompagnement, que ce soit juridique, un soutien psychologique et une aide sociale pour toute victime d'infraction pénale. Nos bureaux, nos locaux sont ouverts pour toute personne dans le besoin. Et on essaye aussi de faire du lien avec les partenaires locaux. Par rapport à cette journée, à ce début de colloque, je trouve ça réellement pertinent pour toute personne, que ce soit les personnes intervenantes ou pas, que ce soit des questions sur l'historique, sur les faits. Et ça permet aussi de prendre considération de ce qui se passe à l'heure actuelle et aussi un peu de reconnaissance par rapport à tout ça.
Par rapport à la crise sanitaire, vous l'avez vécu comment au sein de votre structure ?
Je suis chef de service au sein de l'association SOS Aide aux Habitants. Donc là, vous avez entendu ma collègue psychologue qui prend en charge donc les victimes de violences conjugales, notamment, mais pas que. Et donc, pour répondre à votre question sur la crise sanitaire, on a maintenu notre activité, nous. On est resté, alors bien sûr pas en présentiel lors du confinement, mais on était présent à distance, un maximum possible, et on a réouvert dès le premier confinement, ensuite sans interruption. Et le but, c'était justement de maintenir cette activité. Comme ça a été dit là ce matin lors du colloque, il y a eu une rupture, et puis des femmes qui sont restées dans l'isolement. Et c'est ce qu'on a voulu éviter, alors après avec les moyens qui étaient le nôtre, et puis toujours dans le respect du confinement, mais on a essayé donc de rester en contact, d'avoir des numéros d'urgence et de répondre aux urgences dans un maximum possible. Et donc voilà un peu comment on a essayé d'être présent au maximum.